Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Dans cet épisode bonus, Alexis, le seul guide francophone du Botswana, nous partage ses meilleures anecdotes de brousse, mais aussi toutes les infos pour ceux qui auraient envie de partir en safari. Combien coûte une expédition avec toi ?
Une expédition avec moi coûte en moyenne à peu près 5 500 € de moyenne. Plus ou moins, ça va dépendre des agences de voyage.
Et si je fais une expédition sur mesure ?
Ça va dépendre de ton budget, sachant qu'au minimum, ce sera à peu près la même chose, 5 500.
Quand t'embarques un groupe, on est combien ?
Sur mes voyages actuels, minimum 4, maximum 13.
J'emmène mes enfants ?
Tu peux emmener tes enfants s'ils ont plus de 8 ans.
Les safaris sont adaptés pour eux quand tu les emmènes ?
Les safaris sont adaptés pour eux. En dessous de 8 ans, c'est dangereux. À partir de 8 ans, les enfants ont de la mémoire, peuvent vraiment vivre les choses. Et il y a un coût rabais, évidemment, pour les enfants en dessous de 18 ans. Et oui, c'est vraiment des enfants pleine nature, ça marche toujours.
Est-ce que je dors en lodge au Botswana ?
Tu peux dormir en lodge, ça dépend de ton portefeuille.
Combien de temps au Botswana pour en profiter vraiment ?
Pas en dessous de 10 jours.
Le safari à cheval, c'est une bonne idée ?
Le safari à cheval, c'est une très très bonne idée. Par contre, il faut avoir un certain niveau quand même.
Je m'entraîne avant de partir.
Ouais, ouais, ouais.
L'animal le plus fascinant que tu aies la chance de croiser ?
Je veux dire, les animaux les plus fascinants pour moi sont tout petits. C'est le monde des insectes et des arachnides. Ça me fascine parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et on sait très peu de choses. Ils sont vraiment essentiels à notre écosystème.
Ton animal préféré ?
La hyène tachetée.
Celui que tu redoutes le plus ?
Le moustique et le crocodile.
Celui que tu ne te lasses pas d'observer ?
Ouais, léopard, hyène, éléphant.
L'endroit le plus fascinant où il faut aller au Botswana ?
Le delta de l'Okavango.
Quel animal faut-il vraiment craindre ?
Le buffle.
On n'y pense pas en fait.
On n'y pense pas, mais buffle, hippopotame, ouais, faut vraiment les craindre.
Dans quel pays d'Afrique on voit le plus d'animaux ?
Le Botswana.
Dans quel pays on voit les plus beaux paysages ? Cet épisode est sponsorisé par l'Office du Tourisme du Botswana.
Ah, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de paysages africains que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le paysage du Botswana, du Kalahari. De toute façon, c'est un endroit magnifique et exceptionnel. Le delta de l'Okavango, c'est évidemment une beauté sans nom. Après, il y a des paysages Kenya, Tanzanie, voire même l'Afrique du Sud, ou les grandes forêts du Congo, ou d'Ouganda, tout ça. C'est... L'Afrique, c'est tellement complet que je ne veux pas te dire qu'il y a un pays avec les meilleurs paysages. Il faut venir en Afrique, il faut arpenter.
Il y a le palu au Botswana ?
Il y a du palu, mais pas autant que dans les pays développés. En général, le palu, tu le trouves dans les pays à forte densité humaine.
Je mets quoi dans mon sac quand je pars avec toi ?
Un couteau suisse.
Mais c'est toi le couteau suisse ?
Ben, il faut que tu apprennes.
Non, qu'est-ce que j'oublie pas pour partir en safari ?
Une paire de jumelles et un petit carnet.
Et on dort où quand on fait tes safaris ?
On dort dans les grandes tentes confort.
Dans un lit ?
On dort dans un lit avec une vraie literie, dans une grande tente.
La fois où tu as eu le plus peur dans la brousse ?
La fois où j'ai eu le plus peur, le jour où j'ai eu un client qui s'était fait piquer dans le cou par un scorpion. C'est un monsieur qui, le pauvre, dès son arrivée, était déjà malade à l'aéroport. Et qui me dit qu'il est tombé malade et sûrement qu'il a fait une intoxication alimentaire avec ce qui a été donné comme nourriture dans l'avion ou autre. Donc le pauvre, on part de l'aéroport en direction de la brousse et évidemment, pendant les 3-4 premiers jours, tous les 10 minutes, il fallait que je m'arrête et que j'aille vérifier un buisson. Je ne te raconte pas la quantité de buissons que j'ai vérifié. Et ça a commencé à aller un peu mieux et un jour, un matin, il vient me voir et me dit « Alex, là ça ne va pas, je suis en train de faire des calculs rénaux ». Et je lui dis, comment tu sais que tu fais des calculs ? Il me dit, parce que j'en ai fait plusieurs dans ma vie, et là, je peux te dire que je les sens descendre, ça ne fait pas du bien. Et donc, je dis, ok, mais là, c'est extrêmement dangereux. Et puis, ce jour même, là, on s'en va vraiment loin de tout. C'est-à-dire que la première le premier endroit développé ou avec du monde, il est à 500 km de nous. Donc, il faut être sûr que tu puisses venir. Il m'a dit, non, ça fait des années que j'attends ce voyage, je viens. Donc, moi, j'ai quand même appelé le bureau, son agence de voyage, son assurance, que tout le monde soit prévenu. Mais vu que ce n'était pas lui qui décidait de partir, on ne pouvait pas avoir de force parce qu'il n'était pas, il n'avait pas causé de problème au sein du groupe à l'heure actuelle ou autre. Donc, ça devait être décidé de lui-même. Donc, il est quand même venu. On arrive dans la partie aride. Et ce monsieur, on arrive sur des lions en train de manger un buffle. Ce monsieur prend son appareil photo, qui était un très gros appareil photo. Il tape la structure de la voiture. L'appareil photo sort de la voiture, tombe au pied des lions. Enfin, bref, le pauvre, il n'y arrivait que des histoires comme ça, à tel point que le reste du groupe l'ont appelé Pierre Richard, c'est pour te dire. On récupère l'appareil photo, enfin bref. Et on arrive enfin le dernier soir, et on est au dîner, et on est au dessert. Donc, il ne reste plus qu'à faire dodo, et le lendemain, merci, au revoir. Et il me dit, il était à côté de moi, donc je présidais la table, il était à ma gauche, et il me dit, Alex, en tout cas, voilà, je vais te remercier de ta patience durant ces jours, fait que j'étais malade. Et il remercie évidemment le reste du groupe pour leur patience, et dit que ça y est, il se sent mieux, sa tourista est passée, ses calculs sont tombés, et qu'il va enfin pouvoir faire une vraie nuit complète avant de prendre l'avion demain et rentrer en France. Et là, en même temps où il dit ça, il se lève de sa chaise, il me regarde droit dans les yeux, et il hurle de toutes ses forces, à un point qui m'en a refait le brushing, et je lui dis, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et il se frotte le cou en me disant, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alors je me lève et je vais le voir, je dis, mais qu'est-ce qui te brûle? Parce qu'il est à un mètre de moi. Hein. Il me dit, il y a un petit lézard blanc qui m'a mordu. Un petit lézard blanc au Botswana, non, et puis en plus de nuit encore moins. Donc je dis, ça peut être un gecko, mais un gecko ça fait pas mal si ça mord, enfin, c'est pas possible. Du coup je prends mon lampe torche et j'éclaire le sol pour essayer de trouver ce petit lézard blanc. Je vois rien au sol, du coup j'éclaire sur la nappe de notre table. Et qu'est-ce que je vois sur la nappe? Je vois le scorpion. Et là, je dis, OK. Et donc, j'ai compris que c'était scorpion. Donc, mon réflexe est d'attraper le scorpion tout de suite. Je prends un verre d'eau vide. Je le mets au fond du verre d'eau et je remplis de sable. Et ce qui fait que le scorpion est tout en bas, écrasé par le poids du sable. Il y a certains scorpions qui vivent dans le sable, qui savent creuser. Mais lui, en l'occurrence, non. Et donc, je donne le verre à nos clients. Je dis, tu me perds pas ça. On s'est vu la tronche du client quand je lui ai donné le verre avec le scorpion. Pourquoi? Parce que si je devais faire venir les secours et que je me suis trompé sur l'identification du scorpion, ils vont injecter le mauvais antivenin, ce qui fait que la personne se retrouve avec deux venins différents dans le corps. Donc je lui dis, tu me tiens ça, moi j'ai couru à la voiture, j'ai pris mon kit de premier secours, je suis allé le voir, je lui ai donné des cachets antihistaminiques et je lui ai mis tout de suite l'aspivenin pour faire sortir le venin de la plaie. Moi, en attendant, je retourne à ma voiture et je vérifie dans mes bouquins que je ne me gourre pas. Bon, effectivement, je ne me gourrais pas et c'est un parabutus butidé, donc c'est un parabutus transvalicus, c'est un venin neurotoxique. Autrement dit, tu meurs en quelques minutes. Donc c'est chaud, enfin, c'est pas une histoire, c'est pas un venin cytotoxique. Alors, cytotoxique, c'est... ça fait coaguler le sang et pourrir les chairs. Et tu as aussi cytotoxique, qui est l'inverse, qui te rend le sang non coagulant, et donc tu te vides de ton sang. Là, c'est neurotoxique, donc tu ne peux pas faire garrot ni rien parce que ça atteint ton système nerveux. C'est-à-dire qu'une fraction de seconde, tu as tout ton système nerveux qui en est affecté dans tous les cas, quoi. Et évidemment, tu passes par différentes phases juste avant de mourir. Et donc là, quand je vois ça, je me dis, merde, et en plus dans le cou. Donc imaginez ce qu'une abeille ou une guêpe peuvent faire en piquant dans le cou, imaginez un scorpion mortel. Donc je me dis, super et donc je me suis dit, il va falloir que sûrement que j'appelle les secours. Mais en fait, le temps passe. Tu vois, 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et le mec va bien. Quoi. Donc, je trouve ça bizarre, tu vois, je vais le voir. L'aspivenin, je le laissais. Maintenant, tu ne laisses pas aussi longtemps parce qu'il n'y avait rien qui en sortait. Et je vois comme une micro-goutte de sérum, c'est le liquide transparent qui sort de notre corps, qui sort par la piqûre, zéro venin. Je vois, c'est particulier. Et puis, il va bien, tu vois. Il commence à parler avec les autres, à déconner. Du coup, je retire l'aspivenin et je lui mets une petite crème spéciale dans le cou contre les piqûres pour arrêter la douleur et autres. Et en fait, je me rends compte que ça va. Et là tout d'un coup, je me réveille dans ma tête et je me dis, ah, c'est pas un jeune scorpion, c'est un vieux scorpion adulte. Et en fait, il a fait une piqûre sèche, il n'a pas injecté de venin. Par contre, tu as forcément un peu de résidu de venin sur le dard. Et donc, c'est ce qui brûlait le gars. Parce que pour faire simple, une piqûre de parabutus, c'est comme si je prenais une braise rouge ou du fer rouge. Et non pas je vous marquais, je reste jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Donc c'est extrêmement douloureux. Et je vois que sa douleur est partie assez rapidement, que tout allait bien. Donc du coup, je l'ai amené à sa tente, il est parti se coucher. Le matin, je me suis réveillé, je dis bon, j'espère qu'il est toujours là, je vais le voir. Je l'appelle, il répond, c'est bon, il est vivant. Et je lui dis ça va, il me dit ouais, j'ai fait des rêves bizarres, mais ça va. Je dis bon, tant mieux. Et tout de suite après, on a eu le petit-déj, et je suis allé à l'aéroport, et je l'ai regardé, et au moment où il a passé la sécurité, je me suis dit yes. C'est bon.
Je l'ai remis dans les...
Je pense que c'est bien la seule fois de ma vie où j'étais content de dire au revoir à un client, bien qu'il était très gentil, hein, le pauvre gars. Mais...
Oh, le pauvre.
Mais voilà l'histoire du scorpion. Ouais.
Ta plus grande émotion, Ambrose?
Le jour où j'ai accompagné une femelle éléphant jusqu'à son dernier souffle. En fin 2019, mon dernier voyage, mon dernier safari 2019, je redescendais du nord vers le sud, mais ça restait le nord du pays. Donc j'allais en direction du Détalo Kavango, et en plein milieu de ma piste, en plein milieu de la brousse, il y a un éléphant femelle couché qui respire et qui est en pleine panique. Et moi je suis avec deux véhicules, donc j'ai 12 personnes avec moi, et si tu veux, je ne peux pas passer l'éléphant en disant « Oh, on en a plein, vas-y, on continue ». Non, non. Et puis moi, je ne suis pas comme ça. Et j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Du coup, je m'arrête. Je la vois qu'elle est en panique. Elle est complètement couchée sur le flanc. Son œil, le seul qu'on voit, est ouvert en grand. Tu vois la panique dans l'œil. Donc, je coupe le moteur des véhicules et je commence à lui parler. Alors, évidemment, l'éléphant ne comprend pas un mot de ce que tu lui dis, mais il entend le ton de ta voix. Et encore une fois, c'est un animal très intelligent. Il va savoir tout de suite si tu es énervé, si tu es calme, etc. Donc, je lui parle et je vois que l'œil est plus aussi agrandi qu'il était au début. Bon, je m'approche et je trouve ça bizarre qu'elle ne bouge pas. Elle est couchée au sol, tu vois, et elle tremble. Je mets ma main sur une de ses pattes, elle me laisse la toucher. Je commence à la toucher de plus en plus. Et si tu veux, je m'avance. Imagine qu'elle est couchée sur le flanc, donc je suis entre ses pattes avant et je suis en dessous de son cou, sous son menton. Après, j'ai la trompe qui passe de l'autre côté. Donc, je suis entre sa trompe qui est allongée tout droite et ses pattes avant. Mm-hmm. Et j'ai sa tête devant moi. Et je lui touche la trompe, je touche les pattes, je lui parle. Et en fait, je me rends compte qu'elle est en pleine déshydratation, qu'elle est en train de mourir de déshydratation. Donc, moi, dans le 4x4, j'ai de l'eau. Mais je sais très bien que la quantité d'eau que j'ai ne sera jamais suffisante pour sauver cet éléphant-là. Et de toute façon, tu n'es pas censé interagir avec la faune sauvage. Tu es censé laisser la nature être la nature. Mais moi, je fais partie de la nature. Je suis un humain et ça me brisait le cœur de voir ça. Donc, j'ai compris que je ne pourrais pas la sauver. Et de toute façon, ce n'était pas mon rôle ni mon métier. Mais je voulais l'accompagner. Du coup, je suis allé à la voiture, j'ai récupéré un bidon de 5 litres et j'ai commencé à verser, tu vois, au-dessus de sa bouche en suspension, et j'entends le pour essayer d'aspirer l'eau. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de l'eau que je lui donne qui passe par terre. Donc, vu que sur la voiture, j'ai un réservoir, je vais re-remplir mon bidon. Je m'approche d'elle et je lui soulève la babine de la lèvre, qui est très très lourde et très épaisse. À deux mains, j'avais du mal à soulever une lèvre d'éléphant, pour donner une idée. Et je lui rentre la bouteille de 5 litres d'eau dans la bouche et je la vide. Et là, j'entends qu'elle boit. Donc, je fais ça 3-4 fois. Et après, je vais rechercher de l'eau et je mélange le sable avec l'eau pour faire de la boue. Et je lui applique sur le corps pour qu'elle se redescende en température, parce que c'était ça son problème. Et j'arrive au niveau du bassin et je me rends compte que le bassin est complètement creusé. C'est-à-dire que les organes à l'intérieur, c'est foutu déjà. C'est mort. Donc, on ne peut plus la sauver. Et j'essaye quand même, une fois que j'ai mis de la boue, je la pousse un peu sur le dos. Tu vois, je la pousse pour lui donner, tu sais, comme l'élan, comme si elle voulait se redresser. Et là, je vois qu'elle commence à remonter une de ses pattes arrière. Et là, du coup, je m'écarte. Parce que, si ça se trouve, elle a donné de l'élan pour se lever. Ça reste un éléphant, même si c'est une femelle. Elle fait 3,5 tonnes à 4,5 tonnes. Elle met un coup de trompe, je suis mort. Et je reste pour elle un prédateur. C'est que dans les films que tout le monde s'entend très bien. Même si l'animal est très intelligent. Bon, elle bouge sa jambe, puis finalement, elle la remet. Bon, donc je fais le tour, je me remets au niveau de sa tête, je lui redonne à boire et tout. Et je vois l'œil qui est de plus en plus apaisé. Et qu'elle me laisse vraiment la toucher. Je lui parle en même temps. Et puis tout d'un coup, je vois son rythme cardiaque commencer à accélérer. Et sa trompe, qui était toute droite, qui ne bougeait pas, commence à... Tu sais, ça fait comme un accordéon, une trompe. Ça peut s'allonger et se rétracter. Et ça commence à faire des contractions comme ça, à côté de moi. Donc là, où je ne bouge pas, je relève ma bouteille d'eau et donc je suis accroupi par terre. Et j'ai ses jambes sur ma gauche, sa tête en face de moi et sa trompe sur ma droite, qui fait de l'accordéon et qui tout d'un coup s'arrête, se lève. Et donc moi, j'ai ma bouteille d'eau dans la main gauche, je mets mes mains, c'est comme si je faisais face à la police. Et sa trompe se lève, m'attrape le bout de la paume, me lâche la main, elle met sa trompe en rond, ouais, comme un escargot, et puis elle fait... Et elle est partie. Et j'étais évidemment le premier en larmes, et tout le monde dans les voitures en larmes, et je ne m'attendais absolument pas à ce genre d'interaction avec elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure devant moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne m'attraper la main. Et c'était marrant de voir le dernier souffle qui était extrêmement long, l'iris de l'œil, le muscle arrête de fonctionner, et ça fait c'est presque une machine, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois dans l'œil que ça y est, c'est parti, c'est fini, il n'y a plus personne.
Après, tu l'as laissé là ?
Bah, malheureusement, oui, je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre dans tous les cas. Je suis quand même allé prévenir les rangers que c'était pas très loin d'une entrée du parc pour leur dire qu'il y avait quand même un éléphant mort en travers de la route, donc ça gênait aussi pour passer, dans le sens où nous les professionnels c'est pas un souci, mais il y a un tas d'autres autour, tu sais pas comment ils vont savoir contourner l'éléphant, et surtout ils vont sûrement sortir pour aller voir l'éléphant. Maintenant que l'éléphant est mort, bah ça reste du coup de la nourriture pour les autres. C'est pour ça qu'il faut pas intervenir, tu vois, essayer de la sauver c'était pas le plan, parce qu'il faut qu'elle meure. Pourquoi? Parce qu'après t'as tous les prédateurs et les charognards qui viennent, et puis les détritivores, les insectes qui vont renouveler les nutriments dans le sol pour les plantes, et hop, ça repart dans le cycle, tu vois, en permanence. Et l'herbivore revient, mange la plante, et le carnivore mange, etc. Donc tu ne peux pas vraiment intervenir. Donc ça, c'est un moment très fort. Et oui, effectivement, là, pour le coup, il y a eu des larmes qui ont écoulé, ouais, ça c'est sûr.
Si je n'ai pas le budget pour aller au Botswana, je vais où pour un premier safari ?
Il faut tenter tous les pays d'Afrique pour moi. Tu vois, par exemple, le Kenya, on en parle, c'est du tourisme de masse. Oui, il y aura énormément de bagnoles. Tu vas en haute saison, tu fais la queue en voiture pour accéder au lion, tellement il y a de bagnoles, etc. Il y a de tout, ça dépend de quand il va, etc. Si tu vas en basse saison ou hors saison, effectivement, tu verras moins de monde. Mais le Kenya, c'est un pays magnifique. C'est de la beauté du paysage, des montagnes et autres, des forêts tropicales, équatoriales d'ailleurs. Tanzanie, c'est complètement différent. Encore une fois, Tanzanie, c'est vraiment, si tu veux, les espaces, je dirais, clichés qu'on a de l'Afrique, ces grandes étendues avec l'acacia au milieu, son petit baobab, le cratère du Ngorongoro au fond avec sa neige. Donc, c'est vraiment, il faut goûter un peu de tout. Ouais, il faut goûter un peu de tout. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux commencer à choper le virus de la brousse, Kenya, Tanzanie, voire même Afrique du Sud. Mais si on veut en faire plusieurs dans sa vie, vaut mieux pas commencer par Botswana, sinon on y restera à Botswana.
Merci beaucoup.
J'en prie.